Alors Louis Marie, vous êtes membre fondateur du Chœur Grégorien de Paris, également professeur de chant grégorien au CNSM, par ailleurs chef d'entreprise, vous disiez tout à l'heure deux métiers dans votre vie. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt, d'autant que vous avez pu remarquer notre maîtrise un peu indigente du chant grégorien.
Non, au contraire, très bien. C'est moi qui ai compliqué les choses là, c'est un
troisième. On va avoir beaucoup de choses à apprendre de vous ce soir, on est très heureux de vous accueillir, on vous écoute avec
attention. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Le thème qui m'a été donné est magnifique. Chant grégorien et incarnation. Je vais essayer de l'évoquer avec trois mots. Le premier mot, c'est tourne autour de la mémoire. Le second, le médisme. Et le troisième, silence. On va voir ce que ça va donner. La question qui est posée, c'est peut-être de savoir comment la parole de Dieu peut s'incarner en nous dans le chant grégorien. Je crois avoir compris ça aux deux mots qu'on m'a donnés. Donc comment la parole de Dieu peut s'incarner en nous dans le chant grégorien? Elle peut s'incarner par la mémoire, par le médisme et par les silences. Alors je vais définir les mots, mais avant, j'aimerais qu'on commence par chanter. Ça vous convient?
Ah oui.
Hein? Alors, une hymne merveilleuse, très simple, très fine, elle date du 4e siècle. Je suis sûr que saint Augustin l'a entendue en entrant dans la cathédrale de Milan, où était son évêque Ambroise. Il a entendu, le jour de Pâques, chanter cette hymne. On sait que le texte est de saint Ambroise. La mélodie, il est très probable que cette mélodie n'ait pas bougé. Pour les questions musicales, on est vraiment dans une couche extrêmement ancienne du répertoire. Les premières compositions poétiques, on parlait tout à l'heure à table, les premières compositions poétiques non scripturaires qui sont pas entrées dans la liturgie tout de suite, mais qui sont avec un très beau latin. Saint Ambroise, donc le matin de Pâques, chante cette hymne. Corona luci soluti lacerum laudibus intona mundus exultans jubilans genus infernus urulena. Alors, on y va? Vous avez une bonne chérie là-haut, mais c'est pas grave. Sola, sola, si, do, la, si, 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 do, la, sol, la, do, si, do, re, la, si. On y va? On y va?
Corona luci soluti lacerum laudibus intona mundus exultans jubilans genus infernus ululans.
Très bien, c'est très bien. Alors toute la conférence va essayer de parler d'une... On va partir d'une pointe, d'une pointe très très précise. C'est ces trois petites notes qui se baladent au milieu de l'hymne. Hein, vous l'avez entendu? Corona luci soluti lacerum laudibus intona. Ça, c'est un médisme. Et je vais construire mon travail autour de ce médisme, justement. Dire ce que c'est qu'un médisme. Donc, vous appréciez peut-être déjà la rythmique de cette pièce qui est très belle, octosyllabique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le refait une fois.
Corona luci soluti lacerum laudibus intona.
Aussi simple que ça. Alors, parler un peu de mémoire.
il y a un rapport important entre la mémoire et la musique, vous le savez peut-être. En Inde européen, en sanskrit, déjà la déesse de la mémoire et la déesse de la musique, elle a le même nom, hein, tous les mots, parce que c'est pas un nom qu'on rencontre Sarasvati. Mais surtout, le grec a conservé cette équivalence parce que Musike est la fille de Mnemosis, la mémoire, donc, la musique est fille de. Et surtout, Musike et Mnemosis ont la même racine indo-européenne, mais qu'on a dans hymne. Hymne, c'est la mémoire, c'est la musique et c'est le chant. Hymnos en grec, ça s'approche de notre travail aujourd'hui. Hymnos, eh bien, c'est l'hymne, ça donne l'hymne en français, et c'est toujours cette racine de la mémoire. Il n'y a pas de chant sans mémoire. À la fois la mémoire permet de chanter, le chant permet. Enfin, la mémoire, peu importe, ça s'entretient, si vous voulez. Mais il y a cette idée, depuis 6000 ans, hein, c'est pas. C'est important que le chant, c'est pas un chanteur pour faire joli. Ça, c'est une aberration. On chante pour se souvenir. Et ce qui est vrai dans le monde grec, allons jeter un petit coup d'œil dans le monde sémite maintenant et dans le monde biblique. Il est très intéressant de remarquer que la première occurrence du mot chanter dans la Bible, c'est lorsque Moïse a conduit le peuple à libérer le peuple hébreu, à traverser la mer Rouge, il passe la mer Rouge et que fait-il? Il se met à chanter. Et si le mot chanter a été retenu juste à ce moment-là, c'est qu'il y a un sens. Bien sûr, le peuple hébreu a chanté dans d'autres occasions. Mais ce que je veux dire, c'est que le chant n'est pas la traduction d'un sentiment dans cette occasion. Si le peuple hébreu a chanté, c'est pour se souvenir de la libération. Et aussi pour que les générations à venir se souviennent. Ce que nous faisons à la vieille Pascale. À la vieille Pascale, on lit le texte de l'Exode et on chante comme des mousses de l'île. Continue à faire ce que Moïse a fait. Donc le chant, dans ce cas-là, ce n'est pas une traduction d'un sentiment, c'est en fait un mémorial. Un mémorial, on chante pour se souvenir. Un mémorial immatériel, mais un mémorial quand même. Et les choses deviennent encore plus intéressantes quand on passe de l'Ancien au Nouveau Testament. Parce que l'occurrence du chant dans le Nouveau Testament, il arrive juste chez Marc et Matthieu, et il arrive un moment crucial, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots, le jeudi saint. Le jeudi saint, le Christ lave les pieds, c'est le mandatum novum, le commandement nouveau, il fait l'institution eucharistique, et qu'est-ce qu'il fait après l'institution eucharistique? Il chante. Et dans les deux évangiles grecs, hymnes antes. Il y a juste un mot, hymnes antes. Hymnes, ça veut dire, nous avons chanté. Et santes, c'est un participe passé pluriel. Donc, on traduit hymnes antes, il y a juste un mot. Hein. Hymnes antes, c'est le Christ sort. Donc, hymnes antes, on le traduit par le Christ, enfin, ayant chanté ensemble, virgule, le Christ sort. Ayant chanté ensemble, hymnes antes. Et ce mot est magnifique. Il est magnifique parce que pourquoi le Christ chante? C'est la question. Alors on dit, ben, c'est les usages juifs, alcun, dure pas, il faut dire les psaumes. Oui, très bien. Mais personnellement. Le Christ chante, là aussi, à l'image de Moïse, il chante pour qu'on se souvienne. Pour que nous, à chaque fois que nous chantions, nous soyons associés à son chant avec les disciples. Voilà. Hein, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un chant qui est aussi un mémorial. Il chante pour se souvenir, pour que les disciples se souviennent, pour que nous participions à cette, je ne sais pas dire sacramentale, mais enfin, voilà, hein, le chant, voilà, le mémorial, une synthèse, un très beau mot, et le Christ a chanté, la dernière chose qu'il a faite avec ses disciples, c'est qu'il a chanté. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Ça veut dire que nous, quand nous chantons, à chaque fois que nous chantons, nous revivons, le Christ est au milieu de nous, vous comprenez ? Voilà. Et je veux parler maintenant un petit peu de façon plus précise du chant grégorien. Et chant grégorien est tradition orale. Et l'histoire du chant grégorien est extrêmement complexe, elle est très longue. Et disons qu'on se concède, c'est qu'à Rome, au milieu du 3e siècle, le grec passe au latin. Et ce qu'on sait aussi d'expérience, c'est qu'une langue sacrée est liée à une musique. Et la musique est liée à la langue sacrée, à la langue. C'est-à-dire que le grégorien a très bien pu commencer à partir du milieu du 3e siècle. La preuve, vous l'avez à la fin du 4e siècle, Saint-Ambroise. Hein, ce qu'on vient de chanter, eh bien, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a eu une intervention à l'époque carolingienne qui a conduit Charlemagne à chercher à faire une réforme qui passe par l'écrit, et donc on s'est intéressé à l'écriture musicale. Et on s'était déjà intéressé, mais la conclusion c'était qu'on ne pouvait pas écrire la musique. Hein, un évêque comme Isidore de Séville, qui fait une espèce de synthèse de tout ce qu'on sait à l'époque, au 6e siècle, Isidore de Séville dit sur la musique, on ne peut pas écrire la musique parce qu'elle échappe par sa fluidité même à toute écriture. Et il a raison. Il a raison. On n'écrit pas la musique, on écrit des éléments qui permettent de faire la musique. C'est tout à fait différent. Donc, à l'époque carolingienne, on écrit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces livres, qui sont des livres de chef de chœur, des petits formats, des formats comme ça, on va en voir à Saint-Gall, en Suisse alémanique, sont des petits livres, mais ce ne sont pas du tout des livres de chœur. Ça veut dire que l'ingéniosité de l'écriture, qui est magnifique, pas belle, magnifique, extrêmement plus développée que ce qu'on peut avoir comme écriture au XVIIIe, quand vous jouez du Grigny, ben, vous avez une écriture. Et là, quand on chante le grégorien, on a 6 ou 7 systèmes d'écriture différents qui rendent compte exactement de la même musique. Donc on a une information, au point de vue scientifique, immense, énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que cette tradition orale continue même avec l'écriture. On écrit la musique, mais les gens continuent à chanter par cœur. Et encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant, quand vous allez dans des monastères, vous allez voir dans des monastères, bon, moi, les moines, ils sont là, ils ne sont pas tous de grands musiciens, il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à déchiffrer. Si on leur donne un livre, on les chante, on ne peut pas. Mais il est dans une tradition orale, c'est-à-dire qu'il est porté par la mémoire collective, il chante, voilà. Donc on peut dire qu'encore aujourd'hui, le chant grégorien est une tradition orale où on apprend par cœur une grande partie du répertoire. Voilà. Et cet apprentissage par cœur, ben, il m'intéresse beaucoup. Parce qu'au fond, la mémoire, c'est un moyen de travailler quand on dort, quand on se repose, quand on pense à autre chose. La mémoire, elle travaille tout le temps. Et donc, une mémoire sacrée et une mémoire du chant, eh bien, ça permet d'atteindre des parties de la conscience qu'on ne peut pas atteindre par la volonté. Ça va très loin, si vous voulez, la mémoire de la musique. Elle nous touche extrêmement en profondeur. Et elle permet une incarnation de la parole de Dieu que le chant grégorien chante, si vous voulez. Cette mémoire, elle est très puissante et elle est permanente. Elle permet d'incarner le chant en nous. Voilà, c'était le premier point que je voulais développer. Le second point, c'est le mélisme. Le mélisme, vous avez eu une expérience du mélisme avec Aurora Lucisponiat. Je veux un petit peu dire qu'est-ce que c'est que ce mélisme.
Est-ce qu'on peut rechanter encore Aurora Lucis Ruti? Là, on va penser maintenant au mélisme. Aurora Lucis Ruti. On y va.
Aurora Lucis Ruti, Celum Laudibus in tona.
Bravo.
Mundus exultans iulia, genes infernos ululia.
Je vais vous parler maintenant. On dit que le mélisme, c'est une mélodie sur une syllabe. C'est vrai. On dit aussi quelquefois que c'est une méditation sur une syllabe. C'est vrai. Mais on va creuser un petit peu. On va se contenter de ces deux réflexions. Et nous allons prendre un mélisme un tout petit peu plus développé dans le Christus Factus Est que vous avez à la page 2. À la page 2, vous avez un graduel. Christus Factus Est, de la semaine sainte, le Christ est fait pronobis pour nous, obéissant jusqu'à la mort, c'est le texte de saint Paul, et la mort de la croix. Je vais vous le chanter, et on va le chanter après. Christus factus est pro nobis. On va s'arrêter là. Christus, on y va.
Christus factus est pro
quand ils voient ce mélisme, disent ben, c'est une ornementation. Les gens du monde baroque qui ont l'habitude des ornementations, vous avez une corde, Christus factus est, et puis on ornemente autour de cette corde. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai parce que le grégorien, l'ornementation elle n'est pas nécessaire, l'ornementation c'est en plus. Or, le mélisme, c'est vraiment dans l'ADN du chant grégorien. Le mélisme, c'est essentiel dans le chant grégorien. Donc, dire que c'est une ornementation, ça ne convient pas tellement. D'autres disent c'est un effet oratoire. Christus factus est pro nobis. Et d'une certaine façon, ces gens-là ont raison. Et parce qu'il y a un effet oratoire. On dit que le Christ est mort. Que le Christ soit mort, d'une certaine façon, je ne veux pas vous choquer, mais que le Christ soit mort, ça n'a pas tellement d'importance. Mais qu'il soit mort pro nobis, en a une infinie. Vous comprenez? Il est mort, c'est pas qu'il soit mort, c'est qu'il est mort pro nobis. Ça change tout. Et donc, le mélisme accompagne une espèce de diction oratoire pour dire ben, il est mort pro nobis. Hein? Donc, d'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait acceptable encore, parce que le chant grégorien ne cherche pas d'effet. Dire qu'il y a un effet oratoire, c'est pas connaître le grégorien. Ce qui est extraordinaire en grégorien, c'est qu'il cherche pas à être extraordinaire. Vous comprenez? Il est comme il est. Il est expressif, il sait être expressif, il sait quelquefois un peu figuratif, sans exagération, mais il cherche pas d'effet. Et dire qu'il y a un effet oratoire, ça convient pas. Alors, toujours pour qualifier ce mélisme, je crois qu'il faut chercher ailleurs. Et là où plutôt certains voient une extériorisation, il faut plutôt voir une intériorisation de la parole de Dieu en nous par le mélisme. Une intériorisation de la parole de Dieu par le mélisme. Que se passe-t-il? On passe d'un langage clair à un langage musical. On passe du dit au non-dit. Et pour reprendre des termes évangéliques, on passe, me semble-t-il, du logos, de l'expression de la parole de Dieu, du logos, à un autre mot qu'utilise le logos, et bien sûr Saint Jean l'utilise beaucoup, mais Saint Luc utilise ta rémata, un autre mot, rémata de réo, du verbe couler en grec, réo, le rein, le rhône, le rythme. Eh bien, ta rémata, ce sont les paroles qui coulent de Dieu, qui coulent, vous voyez. Eh bien, d'une certaine façon, la parole de Dieu devient liquescente, elle devient liquide dans le mélisme. Et pourquoi devient-elle liquide? Elle devient liquide, à mon avis, pour nous habiter, pour pénétrer complètement en nous, tout simplement. Voilà, pour s'incarner. On passe, si vous voulez, du logos au rémata. Fatus est, on est logos, prono, et là, on glisse dans ta rémata, dans les choses qui coulent de Dieu, les paroles qui coulent de Dieu, qui coulent en nous, qui permettent ce temps nécessaire de l'intériorisation. Si vous dites Christus fatus est pronobis, très bien, mais d'une certaine façon, ça ne sert à rien de le dire. Il faut le dire en prenant le temps. Et ce temps qui nous est donné, c'est le mélisme. Le mélisme permet l'intériorisation. Le mélisme va partir d'une langue particulière, le latin, et il va arriver à une langue universelle, qui est celle de la musique. Tout le monde peut chanter du grégorien. Pourquoi? Parce qu'il y a les rématas, parce qu'il y a les paroles qui coulent, qui deviennent pure musique. On part du dit et on arrive au non-dit. Et cette expérience, ce glissement permanent, c'est vraiment une expérience typiquement grégorienne. Je vous propose qu'on chante un petit peu plus ce Christus factus est. Et je vous propose, moi je vais continuer un petit peu, et vous allez voir ces mélisses qui envahissent la parole de l'apôtre. Christ. On y va, Christus factus est pronobis, et je continue un petit peu après. Vous continuez si vous sentez d'attaque. Christ. On y va.
Christ.
Alors attention.
Christus factus est pronobis.
Et on s'élance.
Qui est au-dessus de toutes les personnes. Regardez le mélisme sur Illum. Illum, c'est pas n'importe qui, c'est le Christ. Il lui a donné Illum à lui. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Hein. Je vais vous chanter et vous allez entendre le mélisme.
Pater poder Deus, exalta vit Illum.
Regardez un petit peu, je vous ai mis en pointillé. Un pointillé, un mouvement dans le mélisme. Le mélisme n'est pas un discours complètement
On a mis des notes. C'est pareil, c'est un discours sans mots, mais c'est un discours. C'est-à-dire qu'il est composé avec des mots musicaux qui sont vraiment, qui se comprennent. Il y a un langage, c'est un langage.
Il y a un sens.
Oui, il y a un sens, exactement. Il y a un sens, mais il n'y a pas de parole. Vous comprenez ? Il y a une signification, exactement. Et regardez sur, sur Ilum, par exemple. Ilum. Premier mot. Oh. Deuxième mot. Troisième mot. C'est un discours sans mots, mais c'est un discours qui nous parle. Dieu nous parle. La parole parle. Comment vous dire autrement ? Voilà. Hein ? C'est un discours et qui permet l'incarnation, qui permet à la parole de prendre son temps, de nous habiter réellement. Voilà. Sur le Ménis,
sur le regard, si j'avais quelque chose d'autre à vous dire, il y a beaucoup de choses ici. Et si j'avais bien la main. Oui, je voulais parler aussi de temporalité. Le Ménisme nous fait passer d'une temporalité à une autre. Une temporalité dans le Logos, vous avez une temporalité qui peut se quantifier. Hein, Christus factus est pro. Et sur Nobis, on passe dans une autre temporalité. Et le médisme glisse dans une autre temporalité, une durée, un temps qu'on ne peut compter, une introduction de l'infini dans les paroles finies. Comme si le fini, venait à contenir l'infini. C'est impossible, mais c'est quand même une expérience qu'on fait dans le chant. Vous comprenez ? Le fini du mot va finir par le mélisme à contenir l'infini, une chose infinie. Et vous avez ce paradoxe qui, dans la nuit de Noël, on dit que le sein de la Vierge, on l'a même chanté un petit peu, on l'a quasiment chanté aujourd'hui à la communion, le sein de la Vierge contient ce que les cieux ne peuvent pas contenir. Le Christ, évidemment. Hein, les cieux ne peuvent pas contenir le Christ, le Christ. Mais le sein de la Vierge contient le Christ. Voilà. Et bien, de même que le sein de la Vierge contient celui que les cieux ne peuvent pas contenir, de même, une parole finie peut contenir à certains moments des moments d'infinitude, je ne sais pas comment dire. Hein. Mais ce sont pas des, c'est pas de la littérature ce que je vous dis. C'est vraiment des expériences qu'on fait sans arrêt en grégorien. C'est ce glissement qui est intéressant. C'est ce glissement vers une liberté complète. Ça chante et tout le monde chante ensemble et il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de, il y a pas de rythme défini. Il y a un rythme, mais il y a un rythme libre. Voilà. Est-ce qu'on peut refaire encore une fois l'expérience sur Christus factus est ? Vous allez sentir ce...
Christus factus est.
Parle sans mots. Et je voulais vous dire que ces temporalités différentes, ça m'a fait penser, le samedi saint, quand le prêtre met les grains d'encens sur le cierge pascal, il dit ipsius sunt tempora, c'est magnifique comme formule. À lui sont les temps. Et il faut traduire mot à mot, faut pas. À lui sont les temps. Eh bien, d'une certaine façon, dans le grégorien, on a des temps qui sont différents et qui nous permettent une expérience de Dieu, la parole de Dieu, en nous.
elle est dite sur des temps différents. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une expérience vraiment réelle. Encore une fois, c'est pas la littérature. Alors j'en viens maintenant, peut-être, alors le védisme est à la fois lent et agile, débordement et méditation, nécessaire et gratuit. Il faut vraiment habiter la parole de Dieu en nous, le médisme fait habiter la parole de Dieu en nous, avec ses temporalités et son universalité. Très bien. J'en arrive à la troisième partie, le chant grégorien et le silence. Et dans toute musique, on dit que la musique naît du silence. Vous connaissez, on le dit très souvent, et c'est vrai. Et le chant grégorien naît d'un débordement du silence, ça c'est sûr. Et que la musique mène à une qualité de silence. Quand ça se termine et que le silence n'est pas nourri par la musique, c'est mauvais signe. Mauvais signe, la musique n'est pas, n'a rien voulu dire. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose de plus paradoxal. C'est que non seulement il y a un silence avant la musique et après la musique, mais que le chant grégorien lui-même est silence. Le chant grégorien est lui-même silence. Il est d'abord silence de mots. Je vais vous décliner trois silences que je trouve dans le chant grégorien, ce sera ma conclusion. Il est silence de mots, on vient de le voir, sur pronobis, sur nos... il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Chantons-le encore une fois en pensant que tout d'un coup il n'y a plus de mots. Christus, on y va.
Christus,
aboutit à ce paradoxe d'un chant sans mélodie. Et je vous ai pris une pièce, Offertoire, Regester 6, l'offertoire de l'Épiphanie, émettant Olivier Messiaen, juste ce passage que vous avez dans à la page 3, mais un petit peu de côté, là, sur le côté. Regester 6, les rois de Tarse sont venus de Tarse. Tarse, une ville éloignée. Et le compositeur grégorien a composé ça de la façon suivante. Écoutez.
Regester si.
Donc, il cherche à rendre compte évidemment de l'éloignement avec un effet écho. D'accord. Mais c'est aussi un mot, c'est un mot musical sans mot verbal. Vous comprenez? Et très souvent dans les pièces savantes, grégoriennes, on arrive à des répercussions comme ça qui flottent, qui font flotter, il n'y a plus de mélodie. La do 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 la sol fa sol la do do la. Et c'est un moment très particulier pour le cœur à ce moment-là. Parce que on se rend compte qu'il n'y a plus de mélodie, mais qu'il faut l'alimenter et que cette vibration, elle est... Et c'est un moment de suspension pour tout le cœur. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Hein? C'est... La musique, de la musique, il ne reste que la vibration.
C'est le plus dur à faire.
Oui, les répercussions, c'est ça, le plus dur. Et si le chef de cœur compte ces vibrations, il y a ce trophée, hein? ça... Imaginez-vous des apostrophes, hein. Une apostrophe, deux apostrophes, ben vous les avez dire là. Oui, vous les avez là. Une apostrophe, deux apostrophes. Alors quand il y en a 7 ou 8 comme ça, si le chef compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors, paf, tout le monde se fout de là. Il y en a qui comptent 7, 6, 7, 8, bon, ça ne va pas. Il faut pas compter. Pas compter, mais il faut que ça vibre et il faut que tout le monde fasse un. Et c'est un moment très beau, hein. Alors je dirais que c'est un silence de mélodie. Un silence de mélodie. Il n'y a pas de mélodie. Il n'y a qu'une vibration, mais c'est un procédé qu'on trouve très souvent dans les grégoriens. Je vous ai donné un petit exemple, mais il y en a énormément d'autres, notamment dans les graduels de troisième mode, carême, des pièces très difficiles, très belles, On a ces suspensions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 depuis le temps. Donc il n'y a pas de mots, il y a un silence de mots, il y a un silence de mélodie. Et d'une certaine façon, encore plus important, vous savez que le chant grégorien est né oralement, que qui dit oralité dit formule. Il y a toujours des formules. Alors, quand on ne les connaît pas, on ne les connaît pas, mais quand on les connaît, on les connaît vite. Voilà, les formules sont les mêmes. Eh bien, dans le chant, il y a des moments de composition, et puis très très fréquemment, hop, on glisse dans la formule. Et ça permet, la formule permet vraiment un silence mental. Un silence mental, parce qu'on n'a pas à penser. On n'a pas à penser, c'est la formule. On se glisse dans la formule. Et je vais vous donner un exemple comme Christos Acuzès, revenons au Christos Acuzès. Je vous ai mis à la dernière ligne, sur Nomen, je vous ai mis. Ben, je vais vous chanter d'abord. Quore super omni n'écrit plus, en disant, on connaît cette formule de cinquième mode finale du verset, on la connaît par cœur, on ne l'écrit plus. Hein. Pour un notateur, c'est quand même gonflé d'abandonner son poste comme ça. Mais ça veut dire que là, il va pouvoir se dérouler pour nous un silence mental. La formule, tout le monde la connaît. Tout le monde. Et notamment dans les graduels, il y a énormément de graduels qui sont des pièces anciennes, et donc il y a énormément de formules. Donc, imaginez-vous, vous connaissez la pièce, je la chante sur le même phénomène. Quare superone nomen. C'est facile à chanter. Je me détends en chantant ça. Il n'y a pas de. Voilà, c'est parce que c'est la formule là. Et donc les graduels comprennent beaucoup de formules. Et ce sont des moments vraiment d'abandon. D'abandon. Et c'est ça qui compte dans la prière. Et ce ne sont pas les mots qu'on utilise. On peut même prier sans mots. Regardez le chant grégorien. Il est souvent sans mots. Hein? Il est sans mélodie et d'une certaine façon, il fait même plus appel à notre intelligence. C'est de la disponibilité à Dieu, tout simplement, hein, dans la musique. Ça permet cette disponibilité. Eh bien, il est temps de conclure. Et la conclusion est très très simple. Ce dernier silence, silence mental, c'est difficile à obtenir. Très difficile d'avoir un silence mental. Je ne sais pas comment vous êtes fait, mais moi, je n'y arrive pas. On a tout de suite des... Bon, ce silence mental, c'est difficile à obtenir. Dans le chant grégorien, on l'obtient. Permet une prière sans mots. Celle qui plaît tant à Dieu. La parole de Dieu nous habite sans interférence, sans mouvement, sans mots. La parole de Dieu s'incarne à nouveau dans le silence de notre chant. C'est terminé.
pas facile de changer de rien. Mais ce n'est pas difficile non plus. C'est exigeant. Et regardez comme une pièce du 4e siècle, on la chante comme si elle sortait du four. Hein ? Mais c'est... Hein ? Je ne sais pas, on peut la chanter une dernière fois, mais vous verrez. Ora la luce sortira. Une dernière fois.
Ora la luce sortira.
Ave Maria Stella, très belle pièce, carolingienne.
Ave Maria Stella, De Mater Maria, Atque Sancter Virgo, Felicere Porta.
A nous les amis.
Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgum, Mulis Veni Porta. Ave Maria Stella.
Construisez votre arc carolingien. À l'époque carolingienne, on a aimé construire avec de grands arcs mélodiques.
Ave Maria Stella.
À nous.
Ave Maria Stella. Deva Mater Alma. Atque Semper
spirituelle avant de produire quelque chose d'esthétique.
Bien sûr.
Il faut vraiment entrer dans ce... C'est comme, vraiment comme la prière.
Oui. Quelquefois, à la radio, on est donc interrogé. Alors, il y a des mécanismes de pensée. Alors, vous avez le journaliste qui vous dit « Ah, le très bien, ah, c'est très beau. » Eh bien, je dis pas mal. Moi, je trouve pas ça beau. Non, mais il y a une erreur. Enfin, voilà. Mais non, moi, je trouve ça pas beau. Je trouve ça nécessaire. Oui, nécessaire, mais pas beau. La beauté, si. On peut pas dire que c'est. Elle vient après, si vous voulez. Mais il est dangereux cette approche romantique, cette approche d'en faire un objet sublimation absolue. Il y a malheureusement fait fausse route dans cette approche, une approche très, oui, très très 19e. On a beaucoup. Beaucoup de choses sur le chant grégorien qui sont... Non, c'est quelquefois rugueux le chant grégorien, c'est... Par exemple, quand on a des offertoires, il n'y a rien à dire, c'est pas beau, mais c'est sublime. C'est sublime parce que la fonction est sublime. On brûle son temps avec le... On brûle sa voix, on brûle l'intime, on brûle son souffle.
On s'offre,
on n'offre plus des boutons ou de l'argent, c'est pas ça qui compte.
C'est sacrifice des lèvres.
Mais oui, c'est sacrifice des lèvres, exactement. Sacrifice des lèvres. Et de la respiration. Et notre voix, on la donne à Dieu, notre voix, c'est ce qu'on a de plus intime, c'est notre signature, notre voix. Hein, on n'a qu'une voix maintenant, les systèmes électroniques, là, on dit, finalement, la voix, c'est encore le meilleur moyen pour détecter si l'entrant est le bon ou le mauvais. C'est vrai, notre voix, c'est intimement nous. Donc, d'une certaine façon, je dis, cette pièce, cette offre, il n'y a même pas cherché la beauté. On chante ça, mais en s'offrant, et là, c'est magnifique, ça prend un sens, vraiment, c'est sublime, c'est pas beau, c'est sublime.
Puis alors, je pensais aussi, vous connaissez Paul Beauchamp, qui était exégète, qui était, alors, il a, je crois pas qu'il était très musicien, mais il a dit quelque chose que je trouve extraordinaire et qui, à mon avis, est particulièrement vrai pour le grégorien. Il se posait la question, pourquoi est-ce que dans le culte, en Israël, dans l'Église, pourquoi est-ce que, très spontanément, on chante?
Oui.
Alors là, il dit, mais c'est parce que quand on était tout petit, on entendait nos parents nous parler ou se parler à eux. Alors pour nous, il n'y avait pas de sens.
Oui.
Mais on attrapait une mélodie. Et on a appris à parler, pas en essayant de comprendre un sens, mais en voulant chanter comme nos parents.
Ah oui.
Et alors il dit, et ça veut dire que dans cette, ce côté d'imitation d'une mélodie qui vient du Père, enfin, qui vient.
Oui.
Il dit, mais quand on est à la messe, quand on est dans le culte, on a des mots. Alors ça, cette fois, on les connaît, les mots. Mais on sait bien que on vient au culte pour entendre quelqu'un d'encore plus grand que nos pères de chair nous parler. Mais alors, on n'a pas d'autre moyen que chanter, finalement, parce que c'est ça, ce surcroît, cette espèce qu'on vous disait, tout ce qu'on vous disait sur le mélisme et tout ça. Mais moi, j'entends vraiment ça. C'est-à-dire, il faut chanter.
Oui.
D'une certaine manière, si vous arrêtez de chanter, vous réduisez la liturgie à un acte humain.
Bien sûr.
Et vous êtes plus ouvert à la transcendance de Dieu. Ce qui montre l'importance, ce qui montre que c'est quand même stratégique pour une liturgie. Le choix des chants, c'est quand même très très stratégique. Hein. C'est très stratégique.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais c'est cool de dire on a appris à chanter. On croyait qu'on a appris à parler en apprenant à chanter comme nos parents.
Oui.
Parce que leurs paroles, eux, ils les prononçaient comme des paroles sans même penser à la mélodie. Parce que quand on parle.
Oui.
On pense plus qu'en fait il y a une mélodie. Il y a des langues plus musicales que d'autres.
Mais... Oui, bien sûr.
Mais d'où, pour parler, on a chanté.
Oui. Ah non, le chant, c'est que c'est capital. Et vous savez qu'au conservatoire, enfin, je peux parler de drame, de drame dans la formation. Dans la formation de... J'ai des élèves qui arrivent à 15-16 ans, des élèves qui arrivent en classe de piano à 15-16 ans, ils sont des petits monstres. Hein. Savoir jouer tout Ravel à 16 ans, ça dépasse les capacités humaines. Sauf que quand ils viennent en classe, soit ils chantent quelque chose, oh, mais je ne sais pas très bien chanter. Non, mais chantez ce que vous voulez, moi je n'ai pas d'a priori. Bien sûr, ils viennent en classe de Grégorien, ils ne connaissent pas Grégorien, c'est vrai. Ah non, je ne peux pas chanter, je suis au clair de la lune. Ah non, non. Donc il y a un casque, enfin, il y a deux voix qui divergent et c'est très grave, c'est très très difficile parce que l'instrumentiste, on lui demande sans arrêt de faire chanter son instrument et il n'a pas le droit de chanter. Une formation qui bannit le corps, qui bannit la voix, c'est monstrueux, hein. C'est une formation qui est très grave. Et très grave pour les musiciens, je ne sais pas ce que les élèves du conservatoire ici en France, mais. Chanter, c'est vraiment un acte vital. Et dans notre relation à Dieu, c'est aussi vital. Pardon.
Est-ce que le chant, c'est la réalité de toutes les religions du monde, ou il y a certaines religions où c'est vraiment présent?
Bonne question. J'ai l'impression qu'il y a quand même toujours des trucs. Hein, mais... Ah oui, alors c'est ou alors quand on quand même pas des maisons comme ça, c'est limite pas une religion.
Mais... Oui.
Ah mais en islam, ça c'est clair que c'est comme la salle religieuse, en fait, hein, c'est très proche. Chanter une sourate, c'est toujours la parole.
Oui, c'est ça, c'est la diction de la parole sacrée. Je réponds pas à la question, mais je la renverse. C'est très émouvant, moi je suis allé au Liban, on a pu voir, on a chanté au Japon aussi avec le père. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir leur regard. Et pour leur regard, le chant des chrétiens, c'est le chant du monde. Grégorien. Et on les déçoit en ne leur offrant pas, il faut quand même penser qu'on regarde pour les autres. Il n'y a pas que notre regard sur la religion des chrétiens. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Les musulmans, votre chant, c'est le chant du Grégorien. Il n'y a pas de doute. Et c'est beau. C'est beau, ils ont une intuition. J'avais, comme dire, enfin, le meilleur ami du cœur, qui vient à la messe avec nous,
le musulman du quartier latin, c'est un homme extrêmement cultivé, qui adorait le chant grégorien, qui en parlait de façon absolument sublime, sublime. Il finit avec nous, il apparaît dans des conférences, des choses comme ça, il est absolument, absolument magnifique. Il a une intuition du chant grégorien, une profondeur. Il venait à la messe avec nous pendant des années, mais c'est un homme remarquable. Un ami extraordinaire qui me téléphonait toujours chaque année pour le carême. Je l'appelais pour le ramadan. Oui, pardon. Non, pas du tout. Pas du tout. Encore une idée romantique. Encore une idée romantique. Non, mais c'est vrai qu'on l'entend comme ça, a priori comme ça.
Je suis trop romantique.
Oui, mais c'est vrai que maintenant, par exemple, la pire sanction qu'a trouvé l'évêque pour les gardes de Bignone, pour qu'elle avait des problèmes, c'était qu'on lui interdisait de chanter. Donc, les femmes chantent bien, bien sûr. Les femmes chantent très bien, enfin, on a les femmes chantent mieux que les hommes. C'est une jeune coréenne qui est riche,
c'est
26 ans.
C'est
magnifique, c'est magnifique cette femme. Non, il n'y a pas de.
C'est angélique.
Et ce qu'on essaie d'éviter de faire, c'est de chanter les deux voix ensemble, parce que alors là, ça fait un octave parallèle qui n'est pas très heureux. Sauf dans les fonds d'inflammation, des choses comme ça. Ou bien les effets tardifs, comme. Je vous ai dit que le grégorien peut-être remonter au 2e, 3e siècle en Afrique du Nord, je vois. Mais on compose encore des messes du monde, c'est du 17e siècle, c'est très banal, et à ce moment-là, on peut les chanter très bien dans les femmes. Oui, pardon.
J'ai
dit
surtout de la
production
grégorienne
contemporaine. Non. Enfin, oui et non. Compliqué. Au début du siècle, on a rejeté tout ce qui était 19e. Dans les années 60, on a rejeté des choses dans le 19e siècle. Et même du 20e. Le problème, c'est qu'il y a eu une liturgie qui s'appelait la liturgie Horarum, qui a prévu des antennes en latin sans savoir s'il y avait des chants qui correspondaient. Et on a demandé après aux gens de mettre des chants. Donc il y a eu des moines qui ont travaillé pour mettre des chants sur des antennes nouvelles. Ben, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite, malheureusement, c'est mortel. C'est filandreux, c'est long, ça chante fort. Et tout le cœur qui chante ces antennes créées dans les années 70, 75, tout de suite, on a l'impression de faux, quoi. Ça va pas. Donc, non. À vrai dire, le répertoire est immense. Mais quand il y a un besoin, on peut chercher quand même dans tous les manuscrits. Il y a 50 000 pièces, on ne peut rien. Donc, il y a un répertoire tout à fait suffisant pour. Mais on ne compose pas. Je dirais que l'élan de composition, c'est plutôt l'interprétation. On a une telle liberté dans le chant que. On n'a même pas envie de proposer. Moi, je suis un peu compositeur. Enfin, oui, j'aurais la tendance à faire des compositions, de les composer, des choses. Mais en grégorien, non, c'est tellement donné, c'est tellement longtemps, c'est tellement à sa place. Tellement à sa place. Il y a une stabilité de la tradition qui est absolument magnifique. Les premiers manuscrits qu'on a, ce sont des manuscrits du propre chanteur. Il détermine par exemple une pièce comme Christ sur Tosès, qu'on a chanté, ben, ça sera chanté le jeudi saint. 13 siècles après, ça chante Christ sur Tosès. Et on a envie de chanter autre chose. Vraiment, je vous assure. Oui, c'est là, c'est donné par l'Église, et c'est vraiment pire. Toutes les pièces. Et donc, toutes ces pièces, elles ont existé, elles sont stables. Il n'y a pas de. Oui, pardon.
Est-ce qu'il y a un lien entre la liturgie juive du temple et les débuts du monde? Est-ce qu'il y a une continuité?
Alors, il y a une utilisation des sautées, des communes. Il y a aussi un nombre de formes qui ne sont pas limitées. Vous êtes un cœur, soit on dit, ben, voilà, il y en a un qui chante et le cœur qui répond, soit on dit que c'est le cœur à deux, si on chante tous ensemble, il n'y a pas non plus 36 façons de faire avec un groupe. Donc il y a des formes qui se retrouvent, effectivement, de la prière de la théologie au chant. Mais il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Je vous ai dit tout à l'heure que la musique est liée à la langue. Si vous changez de langue, vous changez de musique. C'est impossible de faire autrement. Alors, vous avez la quand même des mots qui sont passés des traïtes, encore dans le culte chrétien, c'est l'alléluia. L'alléluia, c'est bien un mot hébreu. Et donc, sauf que ça ne marche pas, parce que le répertoire des alléluia est tardif. Très tardif. Donc, il ne vient pas de la synagogue, ça, c'est sûr. Donc, il faut être très prudent. J'avais un ami qui nous a invité en Israël, qui a beaucoup travaillé la question. Lui, il ne conclut pas. Tout est dans tous les réciproquements. C'est-à-dire que quand vous avez une carte dans le champ juif et une carte dans le champ latin, c'est pas un lien de paternité suffisant. Soit c'est une tierce, soit c'est une carte. C'est pas parce qu'on a une carte que c'est. Voilà. Mais bon, il y a quand même une. Par les psaumes, il y a quand même beaucoup de choses qui passent. Les matines, notamment, juste comme ça, j'ai eu des amis juifs qui sont venus et qui ont dit pas c'est exactement le plan de. Je vais aller à un enterrement d'un ami juif, un des deux, et c'était les matines du samedi saint. Ils sont différents. Les matines, c'est un peu comme les anciennes sont les mêmes, les toutes sont les mêmes. Donc, est-ce que ça vient très très loin ou bien est-ce que c'est. En tout cas, c'est exactement les mêmes. Il faut faire très attention aux questions de langue. Hein. Autre langue, autre musique. C'est une règle qu'on a observée aussi avec le français, mais c'est pas du tout. On parle sur le français, alors on ne peut pas transposer du grégorien sur le français. C'est très intime le rapport avec la langue. Vous comprenez, c'est vraiment la langue qui suggère sa musique, c'est pas une musique comprimée sur la langue. Donc, sinon, c'est artificiel, et si ce n'est pas artificiel, ça peut.
Merci beaucoup, mes bonjour.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour les compliques?